Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Bienvenue à vous, les vraies voix sur Sud Radio. Bienvenue à vous qui nous écoutez. De l'actualité, des débats, vous connaissez le principe. On est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue à Françoise Degois qui a failli rater cette émission.
Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, dès qu'il y a trois gouttes de pluie à Paris.
Oui, et pas qu'à Paris, dans les autres villes, les grandes villes en général.
Oh non, mais,
mais qui plus est à Paris, vous avez raison.
Après, je voudrais savoir. Tout
c'est le B. On va pas dire le B, on va être poli.
C'est quoi le
B? Quand il y a trois gouttes à Paris, c'est le
box.
C'est le box, voilà, c'est le boxon. Philippe Neveul est avec nous. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir à vous.
On va pouvoir s'engueuler, c'est bien.
Voilà,
je crois qu'il y a de quoi.
On l'a
amicalement, en plus on s'engueule amicalement.
On l'a fait venir pour ça. Philippe Bilger est avec nous, porte-parole. Non, porte-parole, non, j'allais dire porte-parole.
Porte-parole de la Confédération paysanne.
Si, porte-parole.
Il y en a un qui est excellent. Attal est très bon.
C'est vrai, non, j'allais dire porte-parole des Français, un petit peu quand même. Président.
Mais il raconte n'importe quoi.
Président d'institut.
La France du bas. Oui, tu es vachement la France du bas. Non, mais tu te fous de nous.
Il
n'y
a pas mieux que moi pour la France du bas, François.
Président de l'Institut.
Eh bien, garde des Sceaux.
Magistrat honoraire, voilà, vous connaissez Philippe Bilger, les débats des vraies voix dans quelques minutes. Vous savez, ce mercredi, c'est la fin des jauges. Hein. Dans les restaurants, dans les commerces, plus de restrictions dans les mariages. Et alors que le variant Delta représente quand même 20% des contaminations, est-ce qu'il n'aurait pas été plus prudent de reporter cette dernière étape du déconfinement, comme c'est le cas par exemple dans le département des Landes? Qu'en pensez-vous? Venez en discuter avec nos vraies voix, 0826-300-300. Tiens, on sera avec un restaurateur dans quelques minutes. Et puis notre grand débat, c'est à 18h30. L'Assemblée nationale hier qui a donc rejeté l'interdiction du port du voile dans les bureaux de vote pour les assesseurs. Alors sachez que c'était un amendement qui émanait du Modem et qui a donc été rejeté. Un sujet qui a enflammé l'Assemblée nationale hier. Tiens, écoutez le vif échange entre Marlène Schiappa et Éric Ciotti.
Je vous appelle, mesdames et messieurs les députés, à ne pas alimenter une spirale de stigmatisation et de haine qui peut être alimentée par certains, en particulier dans les rangs de l'extrême droite et dans les rangs de la droite extrême.
Vous ne voulez rien changer, vous refusez de vous attaquer au vrai problème. Circulez, il n'y a rien à voir, on change rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste.
Quand je vous entends, monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée.
Faut-il interdire les... Si ça débat déjà dans les vraies voix, faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote? C'est la question que l'on vous pose. Vous nous appelez 0826-300-300 et on sera avec celui qui a déposé l'amendement, François Pupponi, le député Modem du Val-d'Oise, à partir de 18h30. Mais pour l'heure, je vous propose de suivre en direct l'arrivée du Tour de France.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente.
Sud Radio fait son Tour de France.
Il est avec nous, vous le connaissez bien, l'ancien coureur Vincent Barthaud, consultant Sud Radio. C'est un contre-la-montre aujourd'hui sur 27,2 km. Et le dernier coureur est parti il y a une vingtaine de minutes, Vincent.
Exactement. Et on est en train d'assister à un festival du dernier vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, qui est en train de dominer ce contre-la-montre sur toutes ses faces. Il a pris le meilleur temps au premier temps intermédiaire et il ne cesse de creuser. Il ne cesse de creuser sur les principaux favoris du Tour de France. Donc on devrait normalement assister à la victoire de Pogacar tout à l'heure. En ce qui concerne le maillot jaune, Van Der Poel se défend très bien pour le moment.
Bon, très bien. Alaphilippe, il reste maillot jaune. Il devrait rester maillot jaune ou pas, Vincent Barthaud? Vincent? Ah, on a perdu Vincent Barthaud.
Alors,
on le retrouve.
Allô?
Oui, vous entendez Vincent?
Oui, c'est Van Der Poel qui a le maillot jaune. Alaphilippe est à 8 secondes au classement général et il devrait peut-être pouvoir le conserver aussi. Ça va être compliqué. Alaphilippe n'a pas fait vraiment un bon temps dans les temps intermédiaires. Il est relativement assez loin, c'est-à-dire assez loin, quand je vous dis ça, c'est à une vingtaine de secondes de Pogacar. Mais pour l'instant, Alaphilippe a du mal à reprendre le maillot jaune à Van Der Poel sur ce contre-la-montre.
Et voilà donc l'arrivée de ce Tour de France, de ce contre-la-montre, commenté par Vincent Barthaud. Vincent, qu'on retrouvera à partir de 18h15 avec votre collègue, l'ancien coureur Pascal Chanteur, pour le débrief, l'analyse de cette cinquième étape.
Sud Radio fait son Tour de France.
Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64.
Allez, on passe tout de suite au tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Garde à vous, Françoise.
Yes.
Non, vous vous levez pas?
Bah non,
elle s'en fiche. Bah, elle a raison. Elle a raison. Alors, vous savez quoi? On va retrouver tout de suite notre collègue et ami Philippe David. Tout à l'heure, Françoise me disait où est Philippe? Figurez-vous que Philippe David est en direct du salon du Sauffins. C'est dans le camp de Souges, c'est en Gironde. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous.
Bonsoir les vraies voix.
Comment et ça, alors, Philippe, j'ai une question. Comment ça va depuis la défaite de l'équipe de France? Parce que j'ai
le branchez pas là-dessus.
Non, mais parce qu'on a échangé toute la soirée pendant le match, c'était génial.
J'ai vu ça.
Ah oui, c'est vrai qu'on vous a mis dans la boucle.
Si j'en parle, on termine à 3h du matin.
Oui, exactement.
Donc ça va pas être bon pour
vous savez que depuis la défaite des Bleus, il ne mange plus. Hein.
Ah,
il est temps de.
C'est pas mal, David.
Je lui conseille une bonne fondue suisse.
Voilà, exactement. Alors.
Il a le moral en berne.
Elle est très bonne. On est au salon des forces spéciales.
Bravo.
J'ai avec moi Benoît de Saint-Cernin, le président du Sauffins. Alors, il y a toutes les technologies pour les forces spéciales. Bonsoir Benoît de Saint-Cernin.
Bonsoir à tous.
Et alors, vous avez fait un film d'animation qui montre une intervention des forces spéciales absolument fabuleuse avec toutes les technologies françaises. Racontez-nous ce film qui est génial.
En fait, ce qui se passe souvent quand on fait du travail comme ça, dit de prospective, c'est que la prospective, c'est souvent des PowerPoints, c'est des images, c'est un dossier qui va mourir sur une étagère. Et donc, la solution qu'on a choisie au Cercle de l'Arbalète cette année pour le Sauffins, en fait, c'est de faire un film d'animation, un dessin animé, avec un scénario de force spéciale vu avec le COS. Donc, c'est une opération spéciale en 2003.
Le commandement des opérations spéciales.
Voilà, le commandement des opérations spéciales. Et dans cette histoire, on s'est ensuite tourné vers les membres du Cercle de l'Arbalète, les entreprises, en leur disant ce serait quoi l'équipement que vous donneriez aux opérateurs pour cette mission dans 10 ans. Et chacun, enfin, une 36 d'ailleurs, ont donné l'équipement du futur. Et c'est tout ça qu'on a mis dans le film. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai outil de travail, de prospective sur une opération fictive qui aurait lieu dans 10 ans.
Alors, vous allez nous le raconter. Pour l'intelligence artificielle, c'est fabuleux. On a même un soldat des forces spéciales qui est blessé par balle. Il y a un outil qui fait le diagnostic. Racontez comment ça se passe. C'est extraordinaire et c'est réel. C'est pas de la science-fiction.
Alors, l'histoire, elle part malheureusement de faits réels un peu connus. C'est une cyberattaque qui provoque la mort d'un patient en France et est décidée une opération internationale pour aller taper un réseau de pirates. Et la France reçoit la mission d'aller taper un pirate. Et ce pirate, c'est les forces spéciales qui sont chargées de le faire. Et donc, on voit dans le dessin animé toute la préparation de l'opération, puis effectivement la partie finale où on va aller chercher le gars. Et là, il y a un mec qui est blessé. Et effectivement, c'est des outils qu'utilise le service de santé, enfin, qui utilisera peut-être le service de santé des armées pour établir le diagnostic du mec qui est au sol. Il est emmené par ce qu'on appelle une mule. Et c'était la démonstration qu'on devait faire hier.
Et qui fait un diagnostic à l'intérieur.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des outils qui existe, mais l'idée c'est d'agréger tout ça. Et en fait, on le pose sur, donc on va dire une mule, mais c'est un brancard volant qui va prendre en compte le patient. Et ensuite, la mule repart, va se poser sur un bateau. En fait, tout ça existe et le bateau file vite à l'hôpital qui est quelques kilomètres derrière pour la prise en charge du blessé.
Alors, c'est extraordinaire. Pour qu'on comprenne bien, Philippe David et monsieur Sassana, en fait, ce dessin animé, c'est quoi? C'est un peu la promotion du salon, c'est ça?
Non, c'est un travail de prospective. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est un dossier de travail, mais en dessin animé. Et ce qu'on a comme retour depuis le début, c'est que les mecs des forces spéciales viennent nous dire, ça c'est super, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin là-dessus? Ça j'aime pas du tout, j'en ai pas besoin. Et en fait, c'est un document de travail, mais c'est vrai que c'est sous la forme d'un dessin animé qui vous prend un peu parce que voilà, mais je veux pas tout raconter.
On pourra le voir sur les réseaux sociaux ou non?
Alors certainement pas sur les réseaux sociaux. Après, imaginons qu'une radio comme Sud Radio soit la radio officielle du Sauffins et qu'à ce titre-là, elle ait le droit à un extrait du film sur le site internet. C'est effectivement quelque chose de possible, mais on m'a pas fait la demande. Donc
bon,
pour l'instant,
alors,
Françoise
Degois, vous connaissiez le salon du Sauffins ou pas? Ça vous parle, les forces spéciales militaires?
Pas du tout.
Non.
Je ne le connais pas, mais je sais quel rôle fondamental peuvent jouer les forces spéciales, notamment dans des opérations, où finalement c'est quand même le courage de ces hommes qui évitent peut-être à d'autres des pertes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus graves. J'imagine qu'elles seront mises à contribution si d'aventure nous allions au bout du départ et de la fin de l'opération Barkhane. Ce que moi je regrette, j'espère que nous ne partirons pas du Sahel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas les forces spéciales. Bien sûr, dans mes reportages, j'ai discuté avec des gens des forces spéciales. Mais je reconnais quand même le courage absolument extrême et la nécessité dans les démocraties d'avoir des forces spéciales.
Évidemment.
Voilà. Ça n'est pas, ça n'est pas contraire.
Pas, mais vous en parlez très bien.
Bah oui, ouais, ça n'est pas du tout contraire. Ouais. Et pourtant, je suis une affreuse gauchiste.
Ouais.
C'est une affreuse gauchiste qui vous dit ça.
Vous allez voir. Philippe
Bilger.
C'est pour ça que c'est plus grave.
Non, non, mais c'est pour casser. Si vous voulez, c'est pour casser le mythe selon lequel la gauche détesterait l'armée et la droite l'adorerait. Ça n'est pas vrai. Pas vrai du tout.
Mais madame, il y en a des bien des gouvernements de gauche qui ont eu des très bonnes réformes dans les armées.
Alors attendez, parce que
je représente beaucoup de gens.
Si vous parlez tous en même temps, on vous entend. Pas. Monsieur de Saint-Cernin, juste après, j'en ai la parole à Philippe Bilger. Oui, Benoît de Saint-Cernin, vous vouliez répondre à Françoise de Goix.
Non, je dis qu'elle en parle très très bien des forces spéciales. Elle a raison. Et non, c'était juste le problème qu'elle soit de gauche qui était bizarre, mais c'est pas grave. c'est pas le
bien sûr. Allez,
malheureusement, éternellement.
Personne n'est parfait.
Voilà.
Éternellement. J'allais vous le retourner, Bilger.
Ah oui, vous avez raison, François.
Bon. Philippe Bilger, oui.
Philippe David se trouve à quel endroit, là, Philippe, exactement?
Sous un tank. De Saint-Cernin.
À Souge.
Exactement, oui. Dans le camp de Souge, c'est en Gironde. Voilà, un petit mot juste pour terminer. Allez-y, Philippe.
Pardon, mon cher Philippe, de tenter de vous égaler. Donc, vous êtes un Français de Souge.
Voilà.
Ah, elle est bien, elle est super.
Elle est bien.
Vous avez une force très spéciale, Philippe Bilger. Je pose une dernière question à Benoît de Saint-Cernin. On est à Bordeaux.
David,
c'est un grand cru, ce Sofins 2021.
Oh, oui, c'est un grand cru, d'abord parce que c'est le seul salon qui se tient. Tous les autres ont eu la malchance d'être annulés. On est le seul qui s'est tenu. Donc, il y a effectivement une forme d'énergie au salon. Tout le monde content de se retrouver, d'avoir enfin un événement en vrai. Donc ça, c'est la grande victoire aussi.
Et voilà, merci à vous. Beaucoup. Merci Benoît de Saint-Cernin, président du Salon du Sofins, où se trouve en ce moment Philippe David, c'est en Gironde. Dans un instant, c'est le premier débat des vraies voix. Restez avec nous. La fin des jauges, donc, vous l'avez peut-être remarqué ce mercredi. Fin des jauges dans les commerces, dans les restaurants. C'est le retour, tiens, des festivals en extérieur. Selon vous, est-ce que le gouvernement ne déconfine-t-il pas trop vite puisque la situation est inquiétante? Alors, très inquiétante dans les Landes, mais également au niveau national. Le variant Delta représente 20% des contaminations. Ce n'est pas rien. Le gouvernement doit-il faire preuve de plus de prudence? 0826 300 300 pour réagir. On vous attend. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix avec Françoise de Goix ce soir. Philippe Deveul qui est avec nous, Philippe Bilger également. Dans quelques instants, notre premier débat. On déconfine, hein, c'est la dernière étape du déconfinement. Plus de jauge dans les restaurants, dans les commerces. Alors effectivement, on a le sourire, mais... Je ne voudrais pas casser le moral de tout le monde, mais il y a ce variant Delta qui prend beaucoup de place, qui menace l'Élysée, est inquiet. D'ailleurs, il y a une réunion aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement ne déconfine pas trop vite? Est-ce qu'on aurait dû reporter cette dernière étape du déconfinement, comme c'est le cas dans le département des Landes? Vous votez sur Twitter et puis vous nous appelez pour réagir, pour en débattre avec les vraies voix. 0826 300 300. Mais dans l'immédiat, on poursuit le tour de table de l'actualité. Alors, avec un petit coup de gueule, signé Françoise de Goix, en colère, Françoise contre Noël Le Graët.
Ah oui,
et vous avez raison.
Merci Philippe. Oui. Je suis vraiment outré, complètement outré par le comportement du président de la Fédération française de football. J'ai découvert son interview dans le Figaro hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, Philippe Bilger, et vous, Philippe Deveul. Je trouve ça d'une inélégance crasse. Je trouve ça d'une inélégance absolue. On ne lui a rien demandé à Noël Le Graët. Si, justement, on lui a demandé, il aurait pu au moins garder pour la forme des critiques plus diplomatiques. Il explique qu'il est très déçu, qu'il va discuter avec Didier Deschamps. On a le sentiment qu'il est déjà finalement en train de signer le départ de Didier Deschamps. Est-ce que c'est de la comédie entre les deux? Je n'en sais rien. J'ai trouvé vraiment que c'était complètement déplacé à 24 heures après quelque chose qui est un événement assez traumatisant pour l'équipe de France, quelle que soit sa responsabilité, pour le coach, pour les supporters. Paf, Noël Le Graët arrive et dit finalement, moi aussi j'étais très déçu et moi aussi, on a le sentiment que entre les lignes il y a marqué attendez-vous à savoir que Didier Deschamps est débarqué.
Je
trouve que honnêtement, Didier Deschamps, on a a quand même la mémoire un peu courte. Je vois comment il se fait frapper et fracasser. C'est un des plus beaux palmarès du football mondial. Déjà, à titre personnel, cet homme a quand même repris cette équipe de France qui ressemblait à rien. Il en a fait une championne du monde de cette équipe de France. Honnêtement, tous les délires sur il est dépassé, etc. Je n'en sais rien. Mais je trouve qu'on pourrait avoir un minimum de pudeur, de retenue, eu égard à ce que cet homme a apporté au football français.
Vous connaissez, hein, on encense, après on lynche, hein, c'est ce qui se passe. Ouais. Je croyais sûrement, mais à tort, que notre équipe était dans les 4 meilleures d'Europe. Je suis extrêmement déçu, elle est un peu dure cette phrase.
N'importe quoi.
Oui. Philippe Bilger, Philippe.
Je ne suis pas totalement d'accord avec Françoise, ouais. Parce que, évidemment, d'abord, le Noël Le Graët, il est clair, n'est pas un homme courageux. Je l'avais déjà remarqué à propos de Youssoufa, où il avait cherché à décharger de sa responsabilité sur d'autres. Mais je n'ai pas ressenti, Françoise, l'article de la même manière. Certes, il a l'air de dire, mais il ne va pas jusqu'au bout de son argumentation. Qu'il dise franchement, alors qu'il ne veut plus Didier Deschamps, qui a fait l'objet de critiques justifié à la suite du désastre de l'euro, mais il reste au milieu du gué. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas cherché comme cela à dire qu'il ne le virerait pas vraiment. Il y a une attitude qui est ambiguë, mais qui ne me semble pas totalement préjudiciable à Didier Deschamps.
J'aimerais vous lire quand même un autre paragraphe. Tromper, hein. J'aimerais vous lire un autre paragraphe quand
franchement,
même.
Honnêtement, Philippe, vous êtes quelqu'un d'élégant et généralement de précautionneux. Vraiment, ce qui vous caractérise, c'est d'être précautionneux. Vous ne trouvez pas que le lendemain, il n'est pas obligé de répondre à une interview de journaliste. Vous ne trouvez pas que les Bleus, à peine rentrés, là, en plus, c'était dans sinistre, sous la pluie, à l'aéroport du Bourget, enfin bon, il y avait de quoi se tirer les plombs. Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'il y a un côté complètement indécent à tout de suite donner une interview en expliquant qu'il est très déçu, etc. Ces choses-là se discutent d'abord entre personnes et surtout.
Et ensuite à la presse.
Le sens des discussions reste secret. Et là où vous avez raison, c'est qu'en plus de ça, il n'est pas courageux parce que qu'il aille jusqu'au bout. Il dit je le vire. Qu'il aille jusqu'au. Et s'il va jusqu'au bout de l'autre côté, il se tait. Voilà. Et on attend une semaine minimum.
Alors, j'aimerais juste vous lire quand même quelques phrases, puisque c'est ce que vous dites, Philippe Bilger et Françoise De Goix, quand on lui demande en gros, est-ce que Didier Deschamps va rester. Voilà ce qu'il répond, Noël Le Graët. On ne peut jamais décider à chaud. On va faire le bilan d'un certain nombre de matchs, de la popularité de Didier Deschamps. On ne décide pas comme ça.
C'est vrai. Non mais c'est n'importe quoi.
Il faut aussi que Didier Deschamps ait envie de rester. Il n'y a que 10 matchs par an. Il faut avoir une motivation extrême. Mais bon, je suis persuadé qu'il a. On est d'accord, Philippe Deveul, que c'est assez.
C'est un manque d'élégance, un manque de préscience. Élégant, mais je ne suis pas très étonné de ce monde footballistique qui est, à mon avis, déconnecté de la réalité, qui est hors sol, qui ressemble au monde politique et qui est très politisé de surcroît. On l'a bien vu avec Youssoufa, on l'a bien vu avec le fait de mettre un genou à terre, etc. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas regardé le premier match parce que si je ne voulais pas voir ce genou à terre. Parce que le sport n'est pas là pour ça, on ne doit pas instrumentaliser le foot, ce qui est fait par les politiques, parce que je crois que le retour de Benzema a été piloté par la politique.
Normalement, vous allez m'expliquer que tout est à cause de Benzema, qu'il a déréglé l'équipe. C'est délirant,
parce que c'est Mbappé qui a fait perdre le match, c'est pas Benzema qui a foutu un coup de tête. Alors bon, j'ai vu.
Non, mais attendez, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron souhaite une victoire de l'équipe de France pour apaiser les choses.
Comment vous osez affirmer ce que j'ai lu sur Twitter, qui est réfuté par les meilleurs spécialistes de football. Comment osez-vous affirmer que Emmanuel Macron a demandé la réintégration de Karim Benzema? C'est dingue de penser ça. En quoi Benzema vous dérange? Pourquoi vous utilisez cet argument?
Je dis des choses que beaucoup de Français pensent, et mais puis non, autre chose, la politisation. Bon. Enfin, Youssoufa, c'était pas innocent.
S'il vous plaît.
Le genou à terre, c'était pas innocent. Philippe, on fait pas du foot pour faire de la politique.
Excusez-moi, on a toujours fait ça. Le sport a toujours servi à la politique.
On n'a jamais construit un pays avec un match de foot.
J'ai entendu des délires dans la bouche d'Éric Zemmour, avec tout ce genre d'arguments sur on a changé des champs.
On ne pense pas par rapport à Éric Zemmour.
Mais en tout cas, c'est exactement, vous êtes dans le cadre.
Juste pour finir, parce qu'on n'a plus le temps, Philippe.
c'est le début.
S'il vous plaît, Philippe Devel. Juste pour finir, est-ce que c'est choquant, Philippe Bilger, qu'Emmanuel Macron demande à Didier Deschamps, lui suggère de réintégrer Benzema, franchement?
Non, personne.
Mais est-ce que ce serait choquant? Est-ce que ce serait choquant, Philippe Bilger?
Philippe, je ne crois pas. Je suis contre le genou à terre, comme vous, c'est si magré. Mais en revanche, je ne crois pas qu'on puisse relier Benzema à une quelconque intervention présidentielle. J'ai suffisamment de choses à lui reprocher sans ajouter cette pierre sportive.
Écoutez-moi, mais en quoi? Non, mais pardonnez-moi. Benzema a fait une saison exceptionnelle au Real de Madrid. L'entraîneur, mais il a fait un truc exceptionnel au Mondial, à l'Euro. Pardonnez-moi.
C'est un peu grâce à lui si on a rencontré la Suisse.
Écoutez,
la seule faute de Deschamps.
C'est
de l'avoir fait venir trop tard.
Mais en quoi est-ce que Benzema est un problème politique? C'est ça que je comprends.
Mais il a été un problème dans le vestiaire.
Mais il n'y a eu aucun problème. Il y a eu zéro problème dans le vestiaire. Entre Giroud et Mbappé, il y a eu des problèmes, évidemment, mais il n'y a pas de problème avec Benzema.
S'il vous plaît, quand vous parlez en même temps.
Dans le vestiaire, si.
On ne comprend rien.
Alors dites-moi quoi. Allez-y, racontez.
Lui dans l'équipe.
Bon, très bien. Allez, on stoppe parce qu'on n'a plus le temps et en plus, on ne comprend rien parce que vous parlez tous en même temps depuis 2 minutes et on ne comprend rien. Les auditeurs ne comprennent absolument rien. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Vous inquiétez pas, on va en reparler de l'euro, évidemment, à 18h45 avec Stéphane Dezenclos qui nous rejoindra dans une petite heure maintenant, puisqu'on connaît les affiches de ces quarts de finale. Tiens, il y a l'Italie d'ailleurs. On va en parler à 18h50. Dans quelques instants, c'est le grand débat, le premier débat des vraies voix, dernière étape du déconfinement aujourd'hui, sauf dans les Landes, évidemment, à cause du variant Delta. Dans le reste du pays, c'est la fin des jauges, dans les commerces, dans les restaurants, c'est le retour des festivals en extérieur. Selon vous, est-ce qu'on ne déconfine pas un peu trop vite? 0826 300 300 pour en débattre. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Juste un petit jour.
Alors oui c'est vrai, on a de quoi avoir le sourire aujourd'hui, c'est un peu la fête ce mercredi puisque c'est la fin des jauges, enfin la fin des jauges. Fin des jauges dans les restaurants, fin des jauges dans les commerces, plus de restrictions pour les mariages, ça y est les festivals en extérieur sont autorisés, mais voilà. Il y a le variant Delta qui va peut-être nous gâcher notre rentrée. Le variant Delta qui représente 20% des contaminations en France. D'ailleurs, dans les Landes, la dernière étape du déconfinement est reportée au 6 juillet à cause du variant Delta. Là-bas, écoutez bien ce chiffre, là-bas, il représente 45% des tests positifs au Covid. Sur tout le territoire, est-ce bien prudent de déconfiner alors que le variant Delta menace? Vous votez sur Twitter, sur YouTube, on fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et puis, surtout, vous nous appelez au 0826 300 300 pour échanger, en discuter avec Françoise Degoua, avec Philippe Devel, avec Philippe Bilger. Je vous propose d'accueillir tout de suite Maïté qui est avec nous. Bonsoir Maïté.
Bonsoir.
Bonsoir Maïté de Haute-Garonne. Bonsoir ma chère Maïté. Alors,
coucou Maïté.
Dites-moi Maïté, est-ce que, comme Françoise Degoua et comme moi aussi, je le dis, est-ce que vous êtes inquiète ou pas? Est-ce que
non.
Pourquoi?
Moi je suis pas inquiète.
Pas du tout. Enfin, pas du tout inquiète parce que je pense que le pourcentage de gens qui sont contaminés ou qui décèdent du virus, c'est pas aussi important qu'on ne veut nous le faire croire.
Bon, enfin, on nous fait rien croire. Les chiffres sont les chiffres quand même. Hein. On va pas inventer des décès quand même.
Bon, quand on dit qu'il y a 0,05% de décès depuis un an et demi, je sais pas. Mais pour moi, ça.
Vous comprenez le gouvernement quand il reporte la dernière étape du déconfinement dans les Landes au 6 juillet?
Non. Non, je ne comprends pas parce que, dans les Landes, les gens en ont assez d'être limités dans leurs déplacements, leur façon de vivre, ce manque de liberté. Je pense que tout le monde en a assez. Et effectivement, s'il y a des gens qui contractent le virus, ma foi, c'est peut-être la sélection aussi qui se fait naturellement de, des individus comme pour une...
Oui, selon les anticorps, l'immunité. C'est pas faux aussi. Mais... Philippe Bilger, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec ce variant Delta ? C'est vrai qu'il nous fait perdre la raison, hein, tous les variants d'ailleurs.
Moi, je ne crois pas. Enfin, d'abord, je n'ai pas peur, mais je considère que c'est une menace sérieuse, bien évidemment. Mais comment vous dire ? On a trop reproché au début au gouvernement de formuler des injonctions contradictoires et peut-être à un certain moment d'être pas assez audacieux. Et puis, à un moment donné, Emmanuel Macron a repris la main politiquement sur le pouvoir sanitaire. Et en tant que citoyen, j'estime que pour l'instant, j'ai le devoir, en quelque sorte l'obligation, de m'en tenir à ce que le gouvernement propose, qui ne me paraît pas aberrant depuis quelque temps. Donc je considère que ce qu'il propose, la menace qu'il évoque, est suffisamment sérieuse pour que les mesures qu'il prévoit soient pertinentes.
Ouais, alors vous n'êtes pas inquiète, Françoise, l'Élysée est inquiet apparemment.
Bon, moi, j'ai pas envie de tomber dans la dramaturgie. Ouais. Le variant Delta, la question est de savoir est-ce qu'il sature les réanimations ou pas. C'est-à-dire, est-ce que il y a suffisamment de gens vaccinés pour finalement attraper des formes bénignes de ce variant Delta ? C'est ça la seule question qu'il faut se poser. Moi, je suis très inquiète, si vous voulez, pour autre chose. Bon, déjà qu'on ait une quatrième vague, ça ne veut pas dire qu'on a un quatrième reconfinement.
Non, je ne suis pas sûr. S'il n'y a pas de saturation des hôpitaux, il n'y a pas de raison qu'on soit confiné.
C'est pour ça que je dis, c'est la seule chose à regarder. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète terriblement, c'est ce qui est en train de se passer, la folie générale sur la vaccination. Ouais. C'est-à-dire que depuis quelques jours, on assiste à des prises de parole dans la sphère publique de commentateurs, de journalistes, de politiques, qui sont en train de décider que les non-vaccinés sont des mauvais citoyens.
Ouais, ça, c'est
des citoyens de seconde zone. Je suis scandalisé par ça. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème avec le vaccin. Je suis vacciné. Je mets pas les anti-vax forcenés, les complotistes. Il y a une masse de gens qui disent « Nous ne voulons pas nous injecter ça dans le corps car on n'a pas assez de recul, etc. » Dire qu'ils empêchent l'immunité collective est une aberration, car de toute façon, l'immunité collective est de toute façon une illusion. Je trouve que la façon dont on est en train de d'écrire le débat, de le constituer, de poser les décors du théâtre, m'est insupportable. Les gens ont le droit de ne pas vouloir être vaccinés. Ils ont le droit de vouloir se soigner.
Il faut faire attention parce qu'aux États-Unis, en Israël, ça a commencé comme ça et ça a fini par deux clans, les vaccinés et les non-vaccinés, qui se faisaient la guerre.
Non, mais c'est vrai. Et là, je rejoindrai
Philippe
Françoise.
Philippe Devel.
Je suis d'accord avec Françoise sur ce point. C'est qu'il y a M. Le Chiffre, là, qui est présentateur sur
sur une radio concurrente,
BFM,
Emmanuel Le Chiffre.
Qui a dit qu'il faudrait aller chercher les gens avec la Manu Militari et les faire vacciner. C'est scandaleux, ces propos-là. Il n'est pas responsable. Je pense qu'il devrait être interdit d'antenne pendant un certain moment. De dire ça devant autant d'audience en toute impunité, c'est pas normal. Je crois que même aussi Apolline de Malherbe en a rajouté une louche. Il faut respecter les gens qui veulent pas se faire vacciner comme on doit respecter les gens qui se font vacciner. Parce que moi non plus, je suis pas un anti-vax. Je pense qu'il faut prendre du recul. Et d'ailleurs, j'ai lu des articles dans la presse britannique où des pilotes britanniques de la British Airways sont décédés suite à la vaccination. Alors, la British Airways réfute du fait que ce soit des vaccins, mais il y a eu des annulations de vol, il y a eu d'autres problèmes sur d'autres lignes. Donc, il faut rester prudent. On manque de temps, on manque de recul par rapport à ce virus. Et quand cette auditrice qui a pris la parole a dit « Oui, mais 0,0... » Non, c'est pas ça, c'est les conséquences. C'est pas parce qu'on meurt que le taux de mortalité du virus est important que ce virus est dangereux. Il y a des conséquences. Il y a des gens qui ont un Covid long, qui ne se sont pas remis, qui ont des organes qui ont été touchés. Donc il faut être prudent, il faut garder la prudence et il faut savoir rester équilibré sur une telle question parce qu'on n'est pas sorti encore de cette affaire de virus. Il faut garder les distanciations, garder
bien
la
sûr,
possibilité...
Être prudent et ne pas faire n'importe quoi.
Mais rentrer dans l'excès et ne jeter les uns contre les autres, c'est irresponsable.
En tout cas, aujourd'hui, c'était la dernière étape du déconfinement. Fini les jauges, notamment dans les restaurants. Les restaurateurs ont le sourire aujourd'hui, comme Jean-Louis Cotentin qui est avec nous. Bonsoir Jean-Louis Cotentin.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, restaurateur dans le Calvados. Tiens, comment se nomme votre restaurant, Jean-Louis Cotentin?
Alors, mon restaurant s'appelle Bacchus et Marmiton à Moyaux.
Quel programme.
Voilà. Oui, c'est pas mal.
Bon, très bien.
Les gens ne se plaignent pas.
Alors pour vous, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est aujourd'hui le 30 juin, ça y est, c'est fini. Vous pouvez accueillir tout le monde.
Ah, c'est une super nouvelle. On est très contents. Nous, de toute façon, sur la reprise, on n'a pas se plaindre. On est reparti très bien. Ouais. Donc, oui, on a le sourire. On n'attend plus que le soleil en Normandie pour que la saison soit parfaite.
Bon, tout ce qu'on dit là en ce moment là sur la menace, le variant Delta, dans les Landes, vous avez vu qu'on a repoussé le déconfinement, la dernière étape au 6 juillet. Il y a quand même, vous avez le sourire, mais vous avez quand même un petit peu peur de ce qui pourrait se passer ces prochaines semaines ou encore à la rentrée. Vous, les restaurateurs qui avez déjà, pardonnez-moi l'expression, beaucoup morflé cette dernière année.
Alors, à titre personnel, pas du tout. Voilà. Le variant Delta, tout ça, honnêtement, je regarde les chiffres de Covid Tracker tous les jours. Tous les soirs, je regarde, je vois que c'est en diminution constante. Ouais. Là, aujourd'hui, on est à 19 de taux d'incidence pour 100 000 habitants. Il faut relativiser, c'est des cas positifs, ce n'est pas des malades. Donc il faut un peu relativiser. J'entendais votre intervenant juste avant que vous
m'interrogiez. Philippe
Deveul, ouais. Oui, que vous m'interrogiez sur le fait qu'il faille rester prudent, certes, voilà, et garder les gestes barrières. Chez nous, sur toutes les tables, on a du gel hydroalcoolique, on a mis une distanciation d'au moins un mètre par rapport à chaque table. On fait attention à tout ça. Il faut rester prudent, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose totale
comme
on a vécu depuis un an et demi. Moi, en tant qu'ancien militaire, je suis allé en Afghanistan, à Sarajevo. Enfin, je relativise le risque. Il est présent. Oui. Il faut faire. Ça n'empêche pas de garder une certaine prudence, mais il ne faut pas non plus crier au loup avant de voir le loup.
Ouais. Philippe Bilger. Philippe.
Non, mais je ne peux qu'être d'accord. Ouais. Moi, d'ailleurs, encore une fois, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais juger tout cela. Encore une fois, je fais confiance. Je peux comprendre pourquoi on a une certaine irritation face à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais hors de question de les faire interpeller par la police. Mon cher Philippe, je suis absolument de votre avis sur ce plan.
Mais non, mais absolument, je comprends votre irritation, mais en tout cas, c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches. Ce genre de propos sont relayés massivement. On parle quand même de grandes chaînes d'information qui font des audiences énormes, et aucune chaîne n'échappe à ça. On ne peut pas rentrer dans un système comme ça, ça n'est pas acceptable, c'est insupportable. Je pense pas même simplement à les faire interpeller. Toute la dialectique aujourd'hui qui consiste à faire des non-vaccinés des mauvais citoyens est insupportable. Et c'est une vaccinée qui vous le dit et qui croit dans les vaccins. Je ne suis pas une anti-vax ou une pas vaccinée. Donc, et je vois bien, toute la dramaturgie de l'Élysée va consister à faire vacciner, vacciner, vacciner. Ça va être que ça le discours politique. En plus, après, ils vont arrêter de rembourser les tests PCR, etc., antigéniques, pour bloquer. Ouais. C'est la logique. Mais bon sang de bois, les gens ont le droit de ne pas avoir confiance en ces vaccins. Il faut leur laisser le droit de le faire. Ils ne mettent pas en danger notre vie, puisque les vaccinés sont vaccinés. Alors, il est où le problème?
Ouais.
Voilà. Juste,
plus de 30 millions de primo-vaccinés.
Les vaccinés sont vaccinés, chacun prend sa responsabilité.
Merci Jean-Louis Cotentin, restaurateur dans le Calvados. Merci, mon cher Jean-Louis. Bon courage et puis bonne chance pour cet été, même si on a compris que ça marchait très très bien pour vous. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Quelques minutes pour ce deuxième débat. Les premiers départs en vacances se profilent. Là encore, c'est une bonne nouvelle. Tiens, demain, c'est les juilletistes, le 1er juillet, qui vont partir, des vacances bien méritées. Sauf qu'il va falloir faire avec les grèves. Et oui, plusieurs grèves à partir de demain dans les transports, notamment une grève nationale pendant 5 jours à la SNCF, une mobilisation chez Ouigo. Est-ce que vous comprenez la grève à la SNCF? Est-ce que c'est pas la grève de trop? Vous dites oui à 57% sur le compte Twitter de Sud Radio, 0826 300 300. Si vous voulez réagir, on pointe beaucoup du doigt la SNCF ces derniers jours. Tiens Françoise, vous les comprenez ces cheminots? Alors c'est à l'appel de la CGT, hein. C'est juste un syndicat qui appelle à faire grève.
Écoutez, moi... je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer. Faire grève quand ça embête personne n'a aucun intérêt.
Oui, c'est vrai.
Vous comprenez ce que je veux dire, c'est, on est dans une stratégie.
Le but, c'est de se faire entendre.
Le but, c'est de se faire entendre. Ouais. On est dans une stratégie.
C'est l'évidence.
Moi, non, mais justement, c'est là la palissade. Pourquoi, vous les comprenez? Oui, je les comprends très bien. Ils ne vont pas faire grève, si vous voulez, la nuit entre 2h et 3h du matin.
Non, mais là, il y a des antécédents. Il y a la crise du Covid qui a plombé tout le monde.
Je comprends, ça aussi, je comprends très bien. Les gens ont envie de souffler. Ouais. Je veux dire qu'on est dans un contexte où il y a deux jours, le gouvernement nous a annoncé, envoie comme ballon d'essai, qu'on va finalement toucher à l'âge des retraites, malgré les promesses multiples d'Emmanuel Macron. Alors là, les chaînes de télé, elles ont une vertu, c'est qu'elles sont amusées à compiler hier l'ensemble des fois, des moments, candidat à président de la République, où il a dit « jamais je n'y toucherai ». Voilà. Purement électoral, donc je pense que le combat social va vite se réinviter. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il se réinvite, voilà.
À la rentrée,
reprenons des forces, reposons-nous, puis après on reprendra les discussions au mois de septembre. Ça. Mais là, les gens sortent d'un confinement, d'un stress.
Je pense pas qu'elle soit trop méchante, la grève.
Voilà. Bah, c'est le timing. Alors non, je vous le dis.
Non, mais soyons sérieux.
Je vous le dis, la grève ne sera pas méchante du tout.
Mais bien sûr que c'est pas une grève méchante. Alors on va pas faire comme si on pensait que c'est les grandes grèves qui ont bloqué les trains.
On verra, ce sont les usagers des premières victimes.
Bon, Philippe Bidger, est-ce que là, ce ne sera pas demain un avant-goût de ce qui pourrait se passer et peut-être plus dur à la rentrée ?
Probablement, parce qu'il est évident que la fin de l'épidémie, ou du moins de son caractère le plus tragique, va libérer, je pense, une énergie sociale, un océan de contestation dont certaines vont être très justifiées. Et j'ai l'impression qu'on va passer d'une crise sanitaire plus ou moins bien gérée à une effervescence sociale et à des contestations qui révéleront peut-être des choses infiniment plus graves sur le plan politique. Emmanuel Macron cherche à éviter, mais je crains que là, il les prenne de plein fouet.
Oui, parce que je pense qu'il est dans une course d'obstacles. Vous savez, il y a quelque chose qui est très difficile pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, bien sûr, depuis dimanche soir, c'est qu'en réalité, tout leur paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut gagner cette élection présidentielle en étant minoritaire dans ce pays ? Comment est-ce qu'on peut recommencer ça ? Ils sont ultra minoritaires. La droite, parce que je pense que c'est plutôt l'histoire de la droite se réinvite à la table de la présidentielle. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron envoie des signes à la droite avec la réforme et l'âge de la retraite à 64 ans. Et on voit bien qu'il va, et là je vous rejoins Philippe, il va tenter de prendre tout le monde de vitesse. C'est une courbe de vitesse qui est engagée, avec en plus la présidentielle qui est avancée largement, hein, parce que 10 et 24 avril, voilà, on n'a jamais voté aussi vite. Alors après, il y a l'histoire du 1er mai, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bref. Donc Emmanuel Macron est lancé dans un sprint, là. Pour essayer de gagner, de rester sur cette image qu'il a essayé. Je pense qu'il n'y arrivera absolument pas. Mais il va le tenter. Clin d'œil à l'électorat de droite, prendre de vitesse tout le monde, les syndicats, etc. On envoie le ballon d'essai avant l'été, justement, la grande transhumance estivale sur cette réforme des retraites. Et je pense que c'est une erreur profonde. Ouais. Ça, c'est encore les stratégies à la noix dessinées sur des bouts de papier en disant tiens, Coco, fais ça, tu vas voir, ça va marcher, ça marche jamais.
Alors, pour revenir à la grève SNCF, je tiens à rassurer tout le monde, en tout cas tous ceux qui nous écoutent, il n'y aura quasiment aucune incidence sur le trafic demain, puisque au niveau national, le trafic sera quasi normal. Voilà,
bah, tant mieux,
mais c'est
j'imagine inquiet, donc rassurez-vous.
J'aurais dû le dire dès le début,
on s'affrontait pour rien, alors que elle a fait une brillante démonstration concernant la politique.
Vous êtes d'accord ou pas?
Oui, je suis d'accord avec vous. Ils sont dans une logique, à mon avis, où ils vont être pris de court. Il ne faut pas qu'ils se fassent de fausses joies, aussi bien les gens de la droite qui ont gagné, etc.
Parce qu'il
va se passer tellement de choses imprévues, et c'est bien souvent l'imprévu qui reprend l'agenda politique.
Les débats des vraies voix, à réécouter en podcast, évidemment, sur notre site sudradio.fr. Vous avez également l'application Sud Radio, la vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au roi de l'info dans un instant. Vous nous appelez, le standard de Sud Radio, c'est Mélodie qui vous y attend, 0826 300 300 pour participer. Et vous connaissez le principe du jeu, faire équipe avec une de nos vraies voix. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois qui est avec nous ce soir. Philippe Devel est également là, Philippe Bilger, Esteban Rania qui nous a rejoint puisqu'on va jouer tout de suite au roi de l'info. Oui, allez-y Françoise.
Il nous a donné une super info, Esteban. Enfin, que le Parisien vient de sortir en exclusivité. Esteban,
je confirme.
Allez, dites-le.
Deschamps, alors Deschamps, qu'est-ce qu'il passe ? Il reste ou il part, Deschamps ?
Il reste jusqu'à la Coupe du Monde 2022.
Alors, bon, là, au Qatar. Alors, on va vous expliquer, resterait. Et voilà, selon info du Parisien. Bah
c'est quand la rencontre entre Deschamps et Le Graët ?
La semaine prochaine. Selon les informations du Parisien, on verra il serait assuré.
Si Didier Deschamps reste ou pas pour la Coupe du Monde au
Comme
Qatar.
Comme on s'est écharpé, c'est bien.
On joue tout de suite au roi de l'info, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Le roi ou la reine de l'info, c'est piloté par Esteban Rania et vous évidemment qui jouez avec nous au 0826-300-300.
Et c'est Olivier de Beaucaire qui joue avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonsoir Olivier.
Bonjour. Bonsoir Olivier.
Olivier,
bonsoir,
vous avez la
Françoise, bonsoir les deux Philippe.
Ah ben oui. Vous avez la possibilité de jouer avec les deux Philippe, du coup, ou Françoise Degois, si vous répondez faux à une question. Votre
vrai. Un érudit, le plus érudit de tous, je pense. Ça sera Philippe Bilger.
Ah bon. Ah bah merci, vous le dites.
C'est une illusion, Olivier.
C'est ça.
C'est une illusion.
J'ai l'habitude de l'entendre, donc voilà.
Oui, mais.
C'est une valeur sûre.
Bon. Bon, on va voir.
On y va.
Première question. Première question. Dans quel département les dernières mesures ne sont pas levées à cause du variant Delta ? Facile.
Oh, c'est facile.
Ah oui.
C'est dans les Landes.
Bravo. Bien joué. On va monter crescendo.
Eh oui.
Ah bah dis donc, oui.
Deuxième question. La mère de quel joueur de l'équipe de France a semé la pagaille dans les tribunes lors du match face à la Suisse ?
Facile.
C'est Pogba, non ?
Non, Véronique Rabiot.
Véronique Rabiot.
Ah, François, c'est à moi.
Ah, t'allais
le
dire.
Ne trichez pas.
Ah, pardon, t'allais
le
dire.
Ne trichez pas.
Tu savais que c'était Véronique Rabiot.
C'est Véronique Rabiot, oui. Qui s'en est pris à la famille de Paul Pogba lorsque Paul Pogba a perdu le ballon. Qui
non, mais donc, j'ai volé le point.
Et à la famille de
Mbappé, aussi.
Kylian.
Exactement.
Et aux journalistes.
Ils ont besoin d'un avocat, tous ces gens, parce que s'ils se disputent.
Ouais, on va donner vos coordonnées.
Et c'est pas la première fois que Véronique Rabiot.
Elle a une sacrée nature, la mère de Rabiot.
Ouais, c'est pas sa première fois.
Souvent, je pense à pauvre. Je me dis pauvre Rabiot.
Sa mère, c'est aussi son argent.
Voilà. Ah oui.
Ouais. Quel tournoi du Grand Chelem de tennis
son
a débuté
argent,
lundi ?
Oh, c'est Olivier. Facile, oh non.
J'ai pas entendu la question.
Elle est facile.
Quel tournoi du Grand Chelem de tennis a débuté lundi ?
Je sais pas du tout.
Ah, c'est pas alors, facile
Wimbledon.
Pour
Wimbledon.
En fait, à Philippe.
Wimbledon.
Philippe,
voilà. Wimbledon, j'ai dit.
Bah oui, ouais.
Oui, je sais que c'est pas Roland Garros parce que c'est fini, mais après, je sais pas du tout. Je ne suis
non,
pas.
Non, mais Esteban, vous avez décidé de faire des trucs. On joue à quoi ? Au Billboard pour les enfants ou quoi ?
Non, la preuve, Olivier c'est que non, mais notre auditeur ne le savait pas. En fait, j'ai l'impression que c'est Philippe Bilger qui pense et François qui lâche avec sa bouche.
Esteban pose de très bonnes questions.
Oh, voilà. Merci, Philippe.
Ah, bah, c'est allez, pas la dernière.
Et c'est pas les questions tordues de Jean-Marie.
La dernière.
Jean-Marie, parfois.
Jean-Marie Bordry qui est en vacances, qu'on embrasse. Allez, la dernière.
Dernière question. Quel record vient-on de battre au Canada, un record de chaleur, un record de fraîcheur au mois de juin avec moins 52 ou un autre record ?
Un record qui approche les 48 degrés.
Exactement.
Ouais, bravo.
Ouais,
bravo.
Et même 49,6 dans la banlieue de Vancouver.
Bravo Philippe. Non, Philippe, tu as gagné, je crois.
Degrés, ça fait
Olivier était parfaitement justifié à faire le jeu.
Oui, Olivier de Beaucaire, bravo,
bravo
mon cher Olivier.
Olivier.
Vous avez répondu à quasiment toutes les questions d'Esteban. Aidé alors par normalement Philippe Bilger, mais surtout par Françoise Degois ce soir. Merci à vous, mon cher Olivier. À bientôt, j'espère, dans Les Vraies Voix. En tout cas, restez avec nous, puisque dans quelques minutes, c'est le grand débat des Vraies Voix. Un débat houleux hier à l'Assemblée nationale, vous l'avez peut-être suivi. L'Assemblée qui a rejeté un amendement déposé par le MoDem, celui d'interdire le port du voile dans les bureaux de vote. Est-ce que l'Assemblée nationale a eu raison ? Est-ce que c'est une bonne décision ? Plus globalement, est-ce qu'il faut interdire les signes religieux dans les bureaux de vote ? C'est ce que demande le MoDem. Vous votez sur les réseaux sociaux et vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On sera avec celui qui a déposé cet amendement. C'est François Pupponi, le député MoDem du Val d'Oise, dans quelques minutes. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Allez, 18h07 sur Sud Radio, c'est reparti. Bienvenue à vous pour cette deuxième partie des vraies voix, de l'actualité, des débats, avec Françoise Degois ce soir qui est avec nous. Mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée de deux Philippe. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, magistrat honoraire. Et puis Françoise, je ne sais pas où vous allez cet été, mais si vous voulez un petit livre dans votre sac, il y a le roman judiciaire de Philippe Bilger qui a été réédité, 72 heures, voilà, réédité en poche.
Très bien, je vais le lire. Car j'ignorais
ben voilà.
qu'il en a...
Françoise,
même qu'il
je vous en donnerai un.
Non, je refuse.
Elle va l'acheter.
Je vous explique. Les copains, que ce soit les copains, que ce soit des gens que je ne connais pas ou que j'apprécie.
Vous achetez les livres.
J'achète les livres. Ah ben et j'achète les livres parce que je pense que
comme
c'est
ça, j'en aurais au moins vendu un.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, Philippe. Je ne supporte pas les services de presse.
Je vais me mettre à écrire cet été, François.
Non, mais vous êtes d'accord. Il faut acheter les livres. Les auteurs,
il faut les
comme
acheter,
ça. Et voilà. Même si c'est les copains, j'ai horreur du. Je comprends le service de presse quand vous êtes journaliste, etc. Mais j'achète les livres.
Vous avez raison. Philippe Deveul est avec nous. C'est notre vraie voix ce soir, avocat des victimes de terrorisme. Vous allez écrire cet été, Philippe Deveul.
C'est possible. J'écris déjà des articles, mais je suis sur la voie d'écrire un livre.
Bon, faites très bien. Sur quoi ? Sur quoi ?
Alors, j'ai une idée. Ce serait. Je ne veux pas le dévoiler parce que c'est secret.
Les gilets jaunes ?
Non. Non, pas du tout, parce que d'abord, Gilets jaunes, c'est pas fini, il y a des jeux plein de livres, et puis je vois pas.
Donc vous êtes sûr que vous avez l'idée de votre livre ou pas ?
Oui, ce serait intéressant, ce serait évidemment politique.
Bon, très bien, on attend impatiemment l'écriture.
Il faut que je m'y mette,
et la publication du livre.
Cochon ne s'en dédie. Hein.
Dans quelques minutes maintenant, c'est le grand débat des vraies voix, le débat houleux à l'Assemblée nationale qui rejette un amendement déposé par le Modem, celui d'interdire le port du voile dans les bureaux de vote. On se souvient tous de ce cliché, hein. L'image qui a fait polémique du tweet de Jordan Bardella, hein, qui avait pris en photo la cesseuse de son bureau de vote, qui était une femme voilée. Faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote ? C'est ce que proposait un amendement du Modem, celui de François Pupponi, le député Modem du Val d'Oise, qui s'expliquera et qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, restez avec nous, Vincent Barthaud, l'ancien coureur, et l'ancien coureur Pascal Chanteur, consultant sur de radio, seront avec nous dans quelques minutes également pour analyser, commenter l'arrivée du Tour de France. Mais pour l'heure, c'est le tour de table de l'actu.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est avec vous, mon cher Philippe Bilger, le tour de table de l'actu.
Eh bien, Philippe, avant même les régionales, nous étions quelques-uns, et Françoise en était, à considérer que la droite n'était pas morte, que les Républicains continuaient à respirer. Et elle l'a dit tout à l'heure, les régionales et les départementales ont manifesté la victoire de la droite. Eh bien... Je n'ai jamais considéré que le fait d'avoir plusieurs candidats possibles était une malédiction, c'est plutôt une chance. Maintenant, reste à savoir comment les départager. On a d'un côté Xavier Bertrand qui ne veut pas entendre parler de primaire. On a peut-être Valérie Pécresse. En tout cas, on aura Laurent Wauquiez et probablement aussi Bruno Retailleau. Et il y a une lueur d'espoir, selon ma conception des choses, c'est que ces candidats semblent s'être réunis et j'espère qu'ils trouveront un moyen d'entente. Je ne suis pas naïf, hein. Je crois que ça va être très dur, mais qu'ils parviennent tout de même à briser l'absurde système mis en place depuis des mois par Christian Jacob pour attendre François Baroin comme on attendait Godot, mais sans le talent de Beckett. Et j'espère qu'ils parviendront à imposer un autre mode de désignation. Pourquoi pas une primaire, même si Xavier Bertrand n'y participe pas, mais quelque chose qui nous sortira de l'absurde enquête d'opinion initiée par Jacob.
Oui. Qui est prévu, hein, cette enquête d'opinion, donc tester les différents candidats pour voir qui est le mieux placé. Exactement. Françoise de Gouin.
Un grand parti républicain qui aujourd'hui représente la plus grande force politique dans ce pays en est réduit à utiliser des sondeurs pour départager. C'est scandaleux. Surtout quand on voit le naufrage des sondeurs. Ils naufragent de plus en plus souvent. Mais cette année, pour ces régionales, c'est
ils ont
scandale
pas vu juste, hein.
Démocratique. Ils n'ont pas naufragé que sur, ils ne se sont pas naufragés que sur les scores du Rassemblement National. Ils se sont naufragés sur tous les scores. Quand vous regardez, il y a des écarts de 10 à 15. Donc, je suis d'accord avec Philippe. Moi, je pense qu'abondance de biens ne nuit pas. Je suis absolument d'accord. Je ne sais pas quelle est cette idée sur les primaires, tout ça parce qu'elles ont mal tourné à cause de certains candidats, mais je pense que la primaire est un exercice démocratique extraordinaire. Vous parliez de la droite, je pense également à la gauche parce que tout le monde s'en fout. 34,5 avec le PS Force Centrale, même les leaders socialistes et les plus célèbres n'en revenaient pas dimanche soir. Et là où je dis que tout le monde s'en fout et que c'est pas bien, c'est que la gauche, elle conquiert. Elle a conquis la Réunion avec Huguette Bello qui arrache, comment dirais-je, la région, l'île de la Réunion. Elle conquiert la Martinique avec Serge Letchimy qui reprend le conseil régional et elle conquiert la Guyane. Nous n'en avons absolument pas parlé pendant la soirée électorale, personne ne le sait, mais je trouve que c'est quand même hyper méprisant par rapport à nos compatriotes, franchement, d'outre-mer. Mais vraiment, il y a une forme de conquête. Ça n'est pas simplement que la victoire des implantés. Oui. Dire ça, c'est continuer à dire que c'est pas grave si Emmanuel Macron est à 9%. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est une illusion d'optique. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays profondément. Et si on pouvait, mesdames et messieurs qui nous écoutez, mettre de côté ce que nous disent les sondeurs, dimanche soir, l'encre était même pas sèche, 66% d'abstention, la gauche et la droite, largement majoritaire dans le pays, vous aviez des sondeurs qui commençaient déjà à 23h avec l'affiche Macron-Le Pen. Ouais. C'est insupportable.
Et alors, il y a un sondage Elab qui est sorti il y a quelques minutes et donc qui explique que l'écart se creuse et que Macron serait loin devant Le Pen à la présidentielle au premier tour. Évidemment, on est à 10 mois. Non, mais je vous reparle de ça puisque vous pointiez du doigt l'erreur des sondages.
Ouais. Je ne peux plus supporter cette stratégie.
Bon, je crois qu'avant qu'on regarde par des sondages, il faut regarder les résultats. Ça, c'est le meilleur sondage, hein, c'est du vrai. Bon, c'est 65% des gens qui ne votent pas.
Oui.
C'est le plus grand parti de France. Donc la victoire de ces candidats multiples de droite, d'ailleurs qui ne passeront pas leurs vacances ensemble, je ne crois pas.
C'est à relativiser.
Oui, c'est à relativiser. Oui. La meilleure primaire, ça ne sert à rien, c'est des dépenses de temps, d'argent. La meilleure primaire, c'est le premier tour des élections présidentielles. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le résultat qu'on obtient.
Oui, enfin, ça évite qu'un parti ait trop de candidats. C'est ça aussi l'objectif de la primaire.
On est dans on veut la démocratie, les gens veulent se présenter. Il y a plein de petits candidats qui
veulent se présenter. Souvenez-vous, en 2002, il y avait énormément de candidats de gauche.
Oui. Ouais. Et alors, vous regrettez la défaite de Monsieur Jospin, peut-être.
Non, mais c'est...
vous êtes un nostalgique. Non, ce qu'il y a, c'est que je crois que ce qui est scandaleux, en revanche, c'est qu'il y a un problème entre légalité et légitimité. Que le parti du président de la République fasse 3% des gouverne avec 3% des inscrits, mais c'est fou.
On est chez les dingues.
C'est complètement fou. Et d'ailleurs, je vous fais une petite annonce. J'ai adhéré à une association qui s'appelle Démocratie Directe, qui veut proposer, comme préalable aux élections présidentielles, un référendum. Un référendum sur des sujets d'importance pour respecter la parole, pour respecter le vote et le choix du peuple français. Il y a un divorce qui s'est opéré depuis 2005 quand on a proposé l'adhésion à ce traité européen où les Français ont dit non à 55%, qui réunissait des gens aussi bien de droite que de gauche ou de gauche ou de droite.
J'étais une noniste de gauche, moi.
Et voilà. Moi, j'étais une noniste de gauche. On a voté ensemble, alors qu'on n'est pas d'accord.
Et on s'est vraiment fait enfumer.
Et ensuite, par la souveraineté, par la souveraineté nationale, on a contourné cette décision populaire. Donc, il n'y a plus vraiment de légitimité dans ces partis politiques.
Alors, la conclusion, Philippe Bilger, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez vu que même Emmanuel Macron a dit « je vais en tirer les conséquences » lorsqu'il a rencontré Xavier Bertrand sur l'abstention. Quelle solution,
Philippe? Mais en même temps, Philippe, manifestement, il traite ses élections avec une désinvolture royale en jouant la comédie, c'est-à-dire à la fois on les a nationalisés, mais on refuse maintenant d'en tirer les conséquences. Mais Philippe, Philippe Deveul, je comprends bien votre souci, mais je trouve qu'il faut aller avec prudence dans cette distinction que vous faites entre légalité et légitimité. J'ai bien entendu les Gilets jaunes, lors de leur combat, mettre en permanence en doute la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron, ça me paraît dangereux, cela en démocratie, même si, bien sûr, il faut trouver les moyens de lutter contre le désastre démocratique qu'est l'abstention.
Oui. Et tiens, est-ce que vous savez, et je vais terminer avec ça, on a beaucoup parlé du chiffre de l'abstention, 66,5% donc des Français, des électeurs qui ne sont pas allés voter. Est-ce que vous savez quel est le record de l'abstention et pour quelle élection? Tiens, vous le savez, Philippe Deveul?
Écoutez, je pensais que c'était...
C'est un référendum, justement. Ah, c'est le référendum pour le quinquennat, figurez-vous. 69% d'abstention.
Et le quinquennat qui a défiguré la 5e République.
Aussi. Allez, le Tour de France, dans quelques minutes, on va commenter l'arrivée de ce tour que vous avez suivi en direct sur Sud Radio avec Vincent Barthaud. Il y a un peu plus d'une heure, le débrief du tour avec nos consultants, les anciens coureurs, Vincent Barthaud donc, Pascal Chanteur, consultant Sud Radio. À tout de suite.
Les vrais. Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les Vraies Voix sur Sud Radio, avec Philippe Deveul, Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois. On débriefe tout de suite cette arrivée du Tour de France que vous avez suivi en direct sur Sud Radio. Il était 17h. Place maintenant à l'analyse et aux commentaires de nos consultants.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64 présentent
Sud Radio fait son Tour de France.
Et nous sommes avec les anciens coureurs et consultants Sud Radio, Vincent Barthaud qui est avec nous, Pascal Chanteur, bonsoir messieurs, rebonsoir messieurs.
Bonsoir
à vous, Vincent Barthaud donc, Pascal Chanteur, cette course contre la monte, hein, voilà, cette cinquième étape. Et donc, à noter la belle performance du Slovène, hein, Pogačar, tenant du titre, et qui est arrivé cinquième. Pascal Chanteur.
Oui. Magnifique victoire de Tadej Pogačar. Il a écrasé de toute sa classe ce contre-la-montre, ce premier contre-la-montre du Tour de France. Il a posé ses pions. Maintenant, tout le monde sait qu'il va falloir compter sur lui pour la victoire finale.
Vincent Barthaud.
Effectivement, il a pris un ascendant hein, sur ses principaux adversaires qu'il a dominé aujourd'hui, mais il a fait vraiment un gros truc puisqu'il a aussi dominé les spécialistes, Pogačar. Donc il a pris une bonne option sur le Tour de France. On est encore en première semaine, mais c'est vrai que là, il a écrasé la course.
Alors, avant de donner la parole à Philippe Bilger, qui a sûrement beaucoup de questions à vous poser, un petit mot sur celui qui a réalisé également un excellent contre-la-montre, Mathieu Van Der Poel. Pascal.
Alors super Van Der Poel, je veux dire. Bon, déjà, on savait que une fois qu'on a le maillot jaune sur les épaules, on le défend et on le défend du mieux possible. Van Der Poel est le plus français des Hollandais et le public français a su l'encourager, le soutenir et par-delà, Mathieu Van Der Poel a réalisé un véritable exploit en sachant quand même qu'il avait essayé son vélo de contre-la-montre tard dans la soirée pour pouvoir le régler à ses côtes et d'être au mieux aujourd'hui, il aura encore une fois réussi son pari.
Ouais, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur, les anciens coureurs consultants Sud Radio, sont avec nous pour analyser cette cinquième étape. Philippe Bilger.
Et à nos amis, je voudrais demander qu'a fait Alaphilippe, est-ce qu'il a déçu? Et deuxième question, qu'est-ce qu'est devenu Roglic? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est guéri? Comment est-il?
Ouais, j'y vais, Pascal. Oui, Roglic.
Ouais, allez-y, Vincent Barthaud.
Oui, dites-nous avant à qui vous voulez intervenir. Ouais, en fait, Roglic, il a chuté l'autre jour. Il est vraiment très esquinté, fortement tout le dos, l'arrière, les cuisses, le fessier. Donc ça n'a pas été forcément l'idéal pour lui aujourd'hui de se mettre en route. Donc il a perdu beaucoup de temps, 44 secondes, c'est énorme. Il se retrouve relativement loin du général par rapport à son principal adversaire Pogačar, hein, Roglic est à pratiquement 1 minute 48 au classement général. Ça devient un petit peu compliqué pour lui. Puis en ce qui concerne Alaphilippe, on pensait qu'il allait peut-être pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, c'est un circuit qui lui convenait, mais Pascal va vous expliquer un petit peu son ressenti. Ouais. Moi, j'ai écouté un petit peu les réactions de Alaphilippe. Il a perdu beaucoup de temps de façon linéaire sur tout le parcours. Il s'est pas senti tout de suite en jambes. Il n'était pas du tout dans le coup. Donc effectivement, va falloir qu'il change un petit peu ses plans. Alors maintenant qu'il se retrouve à 48 secondes du maillot jaune.
Alors Pascal Chanteur sur le tricolore, Julien Alaphilippe.
Bah écoutez, j'ai une analyse un petit peu spéciale, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que Julien a énormément progressé et a tenu à être plus performant en montagne, ce qui peut être le dessert dans le contre-la-montre, qui est quand même une activité cycliste très particulière où il faut beaucoup de force.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez suivi le Tour? Ça a commencé depuis samedi. Tiens, Françoise Degois et Philippe Deveul. Françoise.
Oui, je trouvais que l'an dernier, il était passionnant. Enfin, l'année d'avant, l'an dernier, j'aime beaucoup Julien Alaphilippe. J'arrive pas encore à le situer. Peut-être qu'ils peuvent nous le dire. Qu'est-ce que dans le panthéon des grands cyclistes français, je pense à Laurent Jalabert pour vraiment le maillot arc-en-ciel. Je pense bien sûr à un Fignon. Je pense bien sûr à Bernard Hinault. Vous le classeriez où dans le, d'ores et déjà dans le grand panthéon, dans le panthéon des grands cyclistes français? J'arrive pas à le définir, je pense que c'est un coureur complet, mais qui est pas, comme Virenque par exemple, un grimpeur né. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à le classer, en fait, voilà.
Alors, disons,
Pascal Chanteur, allez-y.
Alors, disons que Julien est tout d'abord un coureur d'un jour. Donc, c'est un coureur très intelligent en course, parce que pour gagner des classiques, il faut l'être. C'est pas pour ça que les autres ne le sont pas, mais Julien s'est découvert des capacités aussi de récupération sur les courses à étapes.
Ouais.
Et aujourd'hui, Julien a démontré de par le passé des capacités intéressantes dans la montagne.
Sur la montagne, oui, je suis d'accord, il a progressé déjà là-dessus, en fait.
Bien sûr,
c'est pas du tout
sûr.
Un grimpeur né de par l'endroit où il est né. Par exemple, le Cher, je ne crois pas qu'on puisse vraiment s'entraîner à la montagne.
Ah, il n'y a pas que les montagnards qui font
exactement.
Du vélo.
Exactement.
Non, non, mais souvent, bien sûr.
Ouais, ouais.
Allez, et donc, c'est déjà. Est-ce que c'est déjà est-ce qu'il est déjà dans le panthéon ou pas?
Ah oui, bien sûr. Bah, vous savez, lorsque vous avez gagné le nombre de classiques qu'il a pu gagner,
c'est
trois
vrai.
Fois la Flèche Wallonne.
Ouais. Milan-San Remo
est champion du monde en titre.
Ouais.
Je veux dire, déjà, ça vous classe son homme.
Sauf...
Et à partir de là, sa carrière, Julien n'a que 28 ans.
Ouais.
28 ans, c'est encore jeune. Les coureurs par étapes, en général, ont besoin d'un certain nombre d'années de maturité.
Mmh.
Et Julien a encore de très belles années devant lui.
Oui, mais vous savez très bien que, dernier point, seul compte le Tour de France, en fait, en vrai. Si on veut être honnête.
Vincent Barthaud.
Oui.
Vincent.
Voilà. Est-ce qu'il peut le gagner cette année?
Écoutez, non, ben on va voir comment il va. Il a changé un petit peu son programme. On va voir comment il évolue. Il commence à prendre de l'expérience sur les Tours de France puisqu'il il a fait de très beaux derniers très beaux Tours de France. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément que le Tour de France pour entrer.
Je vous taquine. Jalabert l'a jamais gagné.
Merci Vincent Barthaud.
Vous êtes un grand coureur, Pascal.
Merci à Pascal Chanteur, vous avez raison,
ancien
coureur cycliste. Tiens, Vincent Barthaud, maillot jaune 1984 et consultant Sud Radio, merci à vous.
C'est classe d'avoir ces deux-là.
On vous retrouve demain, bien sûr, on est ravis de vous avoir. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur.
Sud Radio fait son tour de France.
Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64.
Faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote? C'était un amendement déposé par le Modem, finalement, qui a été à rejeter. Vous votez sur les réseaux sociaux et vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On revient dans un instant, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Les députés qui se sont écharpés hier sur la question des assesseurs voilés dans les bureaux de vote. Alors le Modem a déposé un amendement pour interdire le port de signes religieux par les assesseurs de bureaux de vote. On se souvient de la photo qu'avait postée le candidat RN, Jordan Bardella, son bureau de vote, où se tenait une assesseur voilée. Finalement, l'Assemblée a rejeté l'amendement du Modem. Le voile dans les bureaux de vote ne sera pas interdit. Faut-il interdire, comme le proposait le Modem, les signes religieux dans les bureaux de vote? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis évidemment, vous votez sur Twitter, sur YouTube, c'est parti. 18h32, c'est le grand débat des vraies voix.
Je vous appelle, mesdames et messieurs les députés, à ne pas alimenter une spirale de stigmatisation et de haine qui peut être alimentée par certains, en particulier dans les rangs de l'extrême droite et dans les rangs de la droite extrême.
Vous ne voulez rien changer, vous refusez de vous attaquer aux vrais problèmes. Circulez, il n'y a rien à voir, on change rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste.
Quand je vous entends, monsieur Ciotti, faire un parallèle entre cette dame qui s'est levée tôt pour aller être assesseur bénévolement et un acte terroriste et la comparer à des assassins, je suis scandalisée.
Ah oui, il fallait être zen hier à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire les signes religieux dans les bureaux de vote? Vous votez beaucoup sur Twitter, c'est extrêmement partagé. Vous dites oui pour l'instant à seulement 54%. Le 0826 300 300, on va accueillir Jacqueline qui nous appelle de Paris dans un instant. Le grand débat avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe Deveul, notre invité dans un instant, Guylain Chevrier du comité Laïcité République. Mais juste avant, j'aimerais avoir l'avis de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, pour ou contre cette proposition du Modem qui a été rejetée, cet amendement?
Sans être péremptoire, j'aurais plutôt été favorable
à la proposition du MoDem. Mmh. Comment dire ? D'abord, j'ai noté que cette femme occultait son visage. Et déjà, ça, c'est totalement interdit. Ensuite, j'ai cru comprendre, et j'espère que mes sources sont exactes, ouais, qu'il s'agissait d'une élue écologiste et que donc elle avait naturellement... Et que donc elle s'est trouvée, je me demande si elle s'est trouvée par hasard en face de Bardella, et j'aurais été celui-ci, peut-être n'aurais-je pas signé, j'aurais fait appel au préfet en demandant si tout ça était légitime. Et j'ai bien conscience que demander, être d'accord avec le MoDem, ça laisse, on admet alors que le port du voile, dans les conditions même acceptables, si tout le visage n'est pas couvert, relève forcément d'un dessein politique, alors que j'admets que dans des cas infiniment rares, il y a une liberté qui se met en œuvre. Mmh. Mais je trouve que le bureau de vote doit être une sorte de sanctuaire de la laïcité qui ne doit rien laisser passer de l'extérieur, qui serait de nature à induire une opinion, un préjugé. Mais j'entends avec impatience le point
bien
de vue.
Bien sûr. Alors juste pour revenir
dont
sur,
j'ai cru comprendre qu'il n'était pas le mien.
Sur le voile, je pense, Philippe, que on voyait son visage quand même.
Elle avait un masque.
Elle avait un masque à cause du Covid.
Excusez-moi, Philippe.
Françoise de Gouard.
La partie du visage est cachée parce qu'elle respecte les gestes barrières. Elle ne porte pas le niqab. Est-ce qu'on peut être clair? Déjà, pour commencer, pourquoi son visage est masqué ? Parce qu'elle a un masque, tout simplement, comme vous et moi. Voilà, premier point. Deuxième point, les assesseurs ont parfaitement le droit de porter des signes distinctifs. Ce sont les présidents de bureau qui n'ont pas le droit.
Ils doivent être neutres.
Ils doivent être neutres. Elle est assesseur, ok ? Elle est assesseur, elle fait son devoir républicain. Moi, je vous le dis, je ne suis jamais gênée, ça ne me gêne pas de voir des femmes voilées dans la rue. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut interdire le voile dans l'ensemble de l'espace public, ça ne me gêne pas. Si vous interdisez à un assesseur, la loi aujourd'hui est stricte, c'est le président du bureau de vote qui ne peut pas porter de signe distinctif. Elle existe déjà, cette loi. Pourquoi le MoDem fait un amendement ? François Pupponi, en vieux routier politique que nous connaissons, François Pupponi dit oui, mais elle aurait pu être amenée à suppléer le président du bureau de vote. Ok, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus.
Bah, mais dans ce cas-là, elle aurait enlevé le voile, dans ce cas-là.
Voilà.
On
n'a pas besoin de faire de l'électoralisme avec cette question. Cette femme, elle s'est levée, elle est assesseur. Quand on voit le niveau d'abstention, objectivement, je n'ai pas l'habitude de faire des compliments à Marlène Schiappa, que je trouve parfois... tellement douce, heureuse, etc. Je trouve que sa réponse est formidable. Et Éric Ciotti, faire le lien entre cette femme et le terrorisme, c'est juste honteux.
Oui. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Philippe Deveul, j'aimerais qu'on accueille notre invité Guylain Chevrier qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Guylain Chevrier, historien spécialiste de la laïcité. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Françoise de Gouard. Donnez-nous votre avis. Est-ce qu'il faut interdire les signes religieux, aussi bien pour les assesseurs, donc, comme c'est le cas pour les présidents de bureaux ?
Bah écoutez, déjà, on proscrit les signes politiques. C'est-à-dire tout ce qui constitue un élément d'influence sur l'électeur. On ne peut pas considérer que le voile n'en soit pas un, puisqu'il peut aussi représenter ce qu'on appelle le regard du quartier, et donc être très, très pesant sur les électeurs qui se présentent. Donc on ne peut pas, si vous voulez,
le regard du quartier, c'est-à-dire le regard du quartier, Guylain Chevrier.
Le regard du quartier, c'est que, si vous voulez, il se trouve que le voile signifie quoi ? Il signifie le refus du mélange au-delà de la communauté de croyance. Donc c'est un symbole très fort, qui relève de l'appartenance à une communauté et d'une certaine assignation. Et lorsqu'on est un groupe et qu'on pèse comme groupe au niveau du quartier, eh bien, ceux qui viennent voter peuvent avoir subi une certaine
92% d'abstention dans les quartiers.
Et je terminerai, si vous le permettez, si vous le permettez, connaissant bien ces quartiers, parce que j'ai été pendant 25 ans travailleur social, c'est pas du tout une petite affaire. Il s'agit pas de relier ça au terrorisme, mais là on est aussi sur une question d'intérêt général. Le problème, c'est de savoir si vous voulez, comment résonne la notion même d'intérêt général dans cette affaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien dire que la France
n'avait pas anticipé, elle ne le pouvait pas, sur une forme de conception religieuse qui porte au-dessus de la loi fréquemment sa conviction, et qui fait que ça vient aussi, si vous voulez, questionner, y compris même, nos principes démocratiques. Et on le voit bien là, puisque ce n'est pas un hasard, on est dans un contexte, sans parler de terrorisme, on a quand même affaire aussi donc au débat autour du burkini, d'un certain nombre de symboles qui sont des éléments de pénétration d'une conception du religieux qui ne correspond pas indéniablement, si vous voulez, à c'est pas simplement à l'histoire de notre pays, mais à une certaine forme de pensée collective où on a depuis longtemps, nous, séparé, je dirais, ce qui est du ressort de la sphère privée, de la sphère où on peut partager un certain nombre de choses, et d'ailleurs dans toutes les...
En gros, vous dites la religion, c'est chez soi, c'est ça, c'est ce que vous dites, Guylain Chevrier.
Dans toutes les enquêtes d'opinion, ben oui, mais c'est comme ça, madame. Il faut savoir écouter.
Allez-y, Guylain Chevrier. Allez-y. Elle vous répondra après. Allez-y.
Je disais donc que dans toutes les enquêtes d'opinion, ce qui est souligné par les Français, c'est l'envie d'une certaine réserve. On a l'habitude, on a pris l'habitude, parce que historiquement, on a construit cette réserve du citoyen vis-à-vis de l'affichage convictionnel. Et là, ça pose un autre problème. Mais de toute façon, indéniablement, ce voile peut avoir une influence sur certains électeurs, et donc au regard de cette logique communautaire qu'on ne peut pas...
Alors,
je voulais juste dire une chose. Les assesseurs sont des citoyens comme les autres. Ouais. Moi, par exemple, dimanche dernier, à mon bureau de vote, ils m'ont demandé, est-ce que vous pouvez être assesseur ? Est-ce que vous pouvez venir dépouiller avec nous ? J'ai dit non, je peux absolument pas, parce que j'ai la soirée électorale, etc. La législation sur le président du bureau existe déjà, ok ? Donc, en quoi cela vous gêne-t-il ? Votre histoire de regard de quartier ne tient pas. Il n'a rien démontré du tout. Si vous avez compris une démonstration là-dedans, mon cher ami, Bizarre, vous
avez compris.
Suis d'accord avec vous que le communautarisme, évidemment que le communautarisme existe.
Alors donc, il peut peser sur la liberté des citoyens.
Il pèse tellement que dans ce quartier, dans ces quartiers-là, il y a 90% d'abstention. Pardonnez-moi. Les gens voilés ont le droit de venir voter ? Est-ce que à Sarcelles, les gens qui portent une kippa... Est-ce que les gens qui portent une kippa ont le droit d'aller voter, oui ou non, à Sarcelles ?
Ça n'a rien à voir.
Moi, je pense que...
S'il vous plaît. Alors, Guylain Chevrier, on va laisser...
Un assesseur non plus.
S'il vous plaît, Françoise.
Un assesseur non plus.
Guylain Chevrier, on va laisser la parole à Philippe Deveul, qu'on n'a pas entendu. Et juste après, à Jacqueline, qui attend depuis quelques minutes au 0826-300-300. Patientez, Jacqueline, on arrive. Philippe Deveul.
Je ne comprends pas cet énervement, surtout de quelqu'un qui est progressiste, qui est une femme et qui devrait peut-être penser aux femmes qui luttent en Iran et qui ne veulent plus
du
voile. C'est un marquage religieux, qu'on le veuille ou non, et c'est comme ça. D'ailleurs, en Afghanistan, avant le 79-77, les gens étaient occidentalisés, bien que ce soit des pays musulmans. L'Iran, la même chose. Il a fallu que Roménie revienne pour que le pays se réislamise et que toutes les femmes soient voilées. Et qu'il y avait une police politique islamiste. Ça, oui. Non, mais c'est très important.
Qu'est-ce qui vous gêne parce qu'il y a la loi, ce
sont les frères musulmans qui imposent ce marquage.
Ce n'est pas vrai.
Les frères musulmans, ce sont des coupeurs de langue, et puis vous avez les terroristes qui sont les coupeurs de tête.
Vous savez qu'il y a des femmes voilées qui ne pensent pas aux frères musulmans,
qui
c'est juste par pudeur.
C'est un marquage territorial. Alors, qui pèse. Il n'y a pas à venir comme ça dans un bureau de vote.
D'ailleurs,
parce que la jurisprudence le dit, le Conseil d'État, l'obligation de neutralité s'impose tant aux membres
du
bureau de vote.
Aux membres du...
C'est la jurisprudence.
Mais sinon, il n'y aurait pas eu d'amendement.
S'il vous plaît. 8 mars 2002, 10 avril 2009, 15 novembre 2004.
S'il vous plaît, j'aimerais qu'on donne la parole à Jacqueline qui nous appelle de Paris, 0826-300-300. Bonsoir, ma chère Jacqueline.
Oui, bonsoir.
Venez nous sauver, Jacqueline. Alors, vous, ce que vous dites, c'est soit on accepte tous les signes religieux, soit on les interdit douce. En substance, c'est ce que vous dites.
Oui, alors, je voudrais, au risque de contredire fortement, Madame de Gouin.
Oui, Françoise.
Françoise. Je suis strictement opposée au port du voile. Parce que
j'estime que les femmes sont soumises sous ce voile. Alors, il y en a que j'adore, qui sont mignonnes tout plein, maquillées et tout, donc on se dit, celle-là, elle rigole bien, mais il y en a d'autres qui rigolent pas du tout.
Il y a des femmes d'autre voilées part. Qui disent des choses extraordinaires dans le monde. Il faut vraiment sortir de la France. Malala est voilée, elle est prix Nobel. Vous avez des imams, vous avez des imams femmes au Canada. Vous avez des imams femmes au Canada qui sont plus progressistes que vous et moi.
D'accord,
vraiment.
D'accord.
Alors, Jacqueline, c'est drôle. Jacqueline, allez-y. Philippe, on ne comprend plus rien, Philippe Deveul.
Je suis pour le respect de chacun.
Quand tout le monde parle en même temps, on ne comprend pas. Allez-y, Jacqueline, finissez.
Arrêtez de dire aux bonnes femmes comment elles doivent s'habiller.
S'il vous plaît, allez-y Jacqueline, finissez.
Moi quand une femme me donne des conseils...
Attention, je vais vous couper vos micros. Allez-y Jacqueline, on vous écoute.
Il me semble que lorsque les religieuses portaient le voile, justement, et on ne voyait que leur visage, il me semble, si je me souviens bien, que lorsqu'elles allaient voter, elles allaient voter en tenue civile, exceptionnellement.
Non.
Et ensuite, je veux dire que nous sommes dans une guerre de religion. Que nous n'avons plus que la religion catholique n'est plus une religion d'État, à part Sarkozy qui est allé chercher des breloques partout, et notamment comme vicaire de Latran, n'est-ce pas?
C'est normal, c'est anti-pas dans Jacqueline.
Les autres présidents ne sont plus, ne travaillent plus avec l'Église catholique.
Si, nous sommes le président de la République est chanoine de Latran
obligatoirement.
Excusez-moi, Emmanuel Macron a été recevoir. Si, il l'est d'office, voilà. Il l'accepte. Emmanuel Macron l'a fait, François Hollande l'a accepté. Ouais. Il n'est pas allé voir le pape pour ça. Non, mais il faut être précis dans ce qu'on dit aux gens.
Je vous propose il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais avoir la conclusion de Philippe Bilger qu'on a peu entendu.
Philippe,
allez-y.
Et il me semble qu'on pourrait accepter une synthèse sans vouloir tomber à tout prix dans un centrisme délétère. Vous évoquez quelques personnes voilées qui sont remarquables et totalement libres. Mais on ne le conteste pas. Mais est-ce que vous pourriez au moins admettre qu'une majorité des femmes voilées n'est pas dans ce registre-là et est probablement soumise à une dépendance qui rend un peu difficile la neutralité qu'exige totalement un bureau de vote.
Je voulais juste
répondre, puisque tout le monde va dans le même sens, que j'en ai assez que dans ce débat du voile, on me ressorte en permanence l'Afghanistan où j'ai été en reportage, l'Iran que je connais les femmes, je connais la condition des femmes. Bon sang de bois, arrêtons de faire des parallèles avec la révolution islamiste épouvantable en Iran, qui a d'ailleurs succédé à un régime de corruption épouvantable avec les talibans. Nous sommes en France. Ramener en permanence ce genre d'exemple, c'est délétère. Les femmes françaises qui portent le voile n'ont rien à voir avec les iraniennes qui sont obligées de porter le voile.
Est-ce qu'on peut apporter un verre d'eau à Françoise de Gauche? La voile est toute rouge.
Juste pour finir,
il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes voilées. On va donner l'exemple de l'Afghanistan, mais dans d'autres pays arabes qui sont soumises, vous avez raison. Mais je pense qu'une majorité en France et une large majorité de femmes portent le voile, non pas parce qu'elles sont soumises, parce qu'elles le veulent tout simplement.
Enfin, on n'en sait rien.
Et qu'elles aiment leur religion.
D'où le savez-vous?
Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont
Il y a des femmes musulmanes qui disent le contraire.
Mais c'est pas une majorité.
Est-ce que vous êtes d'accord pour l'idée de mettre toujours dans le débat l'Afghanistan, c'est pas honnête.
Parce que je voudrais aussi parler de l'assassinat du président Sadat en 82.
S'il vous plaît, Philippe, on n'a plus le temps. Philippe Deveul, on n'a plus le temps. Merci à Guylain Chevrier, historien spécialiste de la laïcité. Merci beaucoup, mon cher Guylain Chevrier, d'avoir participé à ce débat. Merci à Jacqueline au 0826 300 300. Dans un instant, place au sport. Tiens, place à l'Euro. Ça y est, on connaît l'affiche de tous les quarts de finale, les analyses de notre spécialiste dans un instant. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degoy, Philippe Deveul, Philippe Bilger et Stéban Rania. On parle de foot ce soir, on parle de l'Euro.
Les vraies voix Sud Radio font leur Euro.
Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. We are the people
we've been waiting for. Et on fait notre Euro ce soir avec Stéphane Desenclos qui est avec nous. Bonsoir Stéphane.
bonsoir.
Rédacteur en chef du site Le Quotidien du Sport. Alors Esteban, ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale. Hein.
Et oui, maintenant qu'il n'y a plus l'équipe de France pour l'Euro 2020, qui est désormais le favori pour aller au bout ? Stéphane, quand on voit les Anglais hier contre l'Allemagne, et en plus, ils sont soi-disant du bon côté du tableau maintenant. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout pour vous ?
Bah tout à fait, je vous avoue que j'étais pas mes favoris au début de la compétition. Maintenant c'est sûr que vu ce qui reste, vu la forme des équipes, vu ce qui reste, c'est vrai que les Anglais font figure dorénavant de favoris, ils jouent chez eux, donc ça peut aider. Puis il y a beaucoup de gros qui sont passés à la trappe.
Alors
ouais, j'ai une question. Allez-y, Françoise.
Et la nationale, et vous la, moi, depuis le début, on a un chamaillerie, Philippe David et moi, et ils pensent que c'est l'équipe de France. Moi, je pense que les Italiens peuvent aller au bout. Est-ce que vous pensez que c'est une pensée romanesque et romantique? Tellement leur jeu, leur banc est profond, tellement leur coaching est remarquable, en fait. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent ou pas?
Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Vraiment tout à fait. Bon, on va avoir quand même un bon test contre la Belgique, mais c'est vrai que ça fait effectivement.
Comment ? Mais Stéphane.
Ouais. Allez-y. Alors terminez Stéphane.
Oui. Je disais qu'on va avoir un bon test contre la Belgique, mais c'est sûr que les Italiens ont fait un très bon tour. Faut un petit peu se méfier le petit bémol, c'est que moi je les attendais en match à élimination directe après les matchs faciles de poule. Ouais. Ils ont eu beaucoup de mal à battre l'Autriche. Donc ils ont. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'ils peuvent aller. Ils peuvent. Ils font partie des outsiders.
Quand même. Philippe Bilger.
Non, mais je rejoins ce qu'a dit Françoise et bien sûr Stéphane. Moi, j'ai trouvé les deux premiers matchs de l'Italie les plus remarquables du championnat d'Europe. Et puis, le dernier match contre l'Autriche a montré tout de même qu'aussi talentueux qu'ils étaient, l'équipe était prenable tout de même. Et je suis curieux de la voir contre la Belgique. Est-ce que De Bruyne jouera ou pas ?
Bah écoutez, on ne sait pas. La dernière fois que Roberto Martinez en a parlé, il a dit qu'il pensait qu'il serait un peu juste. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Alors est-ce qu'il y a aussi des petites cachotteries aussi volontaires? Alors, c'est vrai que De Bruyne, il change. On l'a vu hein, contre le Danemark. Hein, il change l'équipe de tout au tout, quoi, du tout au tout. J'aurais tendance à dire que oui, effectivement, il faudrait que je crois que c'est un peu tôt encore aujourd'hui pour dire que mon avis, ils vont décider au tout dernier moment.
Alors, allez-y, Françoise.
Et Eden Hazard, est-ce que vous trouvez, comme la plupart des observateurs, moi j'ai vu jouer les Diables l'autre jour, j'aime beaucoup cette équipe parce que
Diable Rouge, la Belgique.
J'adore Lukaku, par exemple. Est-ce que vous trouvez, comme les commentateurs, vous, que Eden Hazard, lui aussi, monte en puissance?
Ben écoutez, oui, il monte en puissance, peut-être pas encore. On l'a peut-être pas vu, notamment contre le Portugal, il a peut-être pas été au rendez-vous. Oui, c'est quelque chose de logique, hein. Il a été longtemps arrêté, il est revenu petit à petit. Il a peut-être eu un petit coup de pompe contre le Portugal, mais je pense que c'est un joueur important qui aura aussi une part très importante dans l'éventuelle victoire de la Belgique à 7 euros.
Alors je vous rappelle quand même les affiches de ces quarts de finale, hein. Suisse-Espagne à suivre vendredi, Belgique-Italie, Ukraine-Angleterre, République tchèque, Danemark. Tiens, sur ces affiches, qui on peut éliminer déjà? La Suisse, vous la voyez aller en demi-finale ou pas, Stéphane Desenclos par exemple?
La Suisse, je la voyais pas du tout aller en quart de finale déjà, donc pour moi c'est sûr que je sais pas, Ukraine, ils sont un peu imprévisibles. La Suisse, non, moi, la Suisse, j'y crois absolument pas du tout. Parce qu'on a beau dire qu'ils ont fait un grand match contre l'équipe de France et tout, mais je pense que c'est les
Français qui ont mal joué, je pense.
Mais oui, ouais, aussi. Aussi.
Méfiez-vous des barres de vos maltines. Hein.
Ouais. Merci Stéphane Desenclos. Merci à vous, rédacteurs en chef du site Le Quotidien du Sport.
Qu'est-ce que vous voyez alors la finale? Est-ce que vous voyez Italie-Angleterre?
Alors le pronostic, Stéphane.
Bah, j'aurais maintenant qu'on a avancé dans la compétition. Ouais. Alors, j'étais pas pour. Effectivement, ouais, ça sera Italie ou Belgique. À quoi je pense que ça sera Italie ou Belgique. Mais je parierais pas.
L'Angleterre.
L'Angleterre, ouais, contre l'Angleterre. Mais attention aux équipes aux petites équipes qui n'ont rien contre. Qui ont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué cette saison et qui sont en pleine forme physique et tout et qui sont prêts à aller au bout.
Bon, très bien. Merci à vous, Stéphane Desenclos, rédacteur en chef du site Le Quotidien du Sport. Dans quelques instants, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix des entrepreneurs ce soir avec Denis Jacquet qui va pas tarder à arriver. À tout de suite.